Voilà. Bonjour à chacun. C'est un plaisir d'être là avec vous ce matin. J'espère que ça va pour le son. Je ne peux pas m'empêcher de respirer, donc vous entendrez ma respiration. Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Quelle belle confession qu'on a chantée ce matin. Quelle belle confession, Sauveur, je te recherche aujourd'hui et à jamais. Qu'on puisse garder ça dans nos cœurs. Le but de ce partage ce matin, de cette exhortation, c'est qu'on puisse continuer de plaire au Seigneur et qu'on puisse continuer d'être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Voilà, c'est vraiment le but de cette exhortation dans la simplicité et dans tout ce que je pourrais vous partager. Et je ne sais pas si je fais cette blague ou pas, j'essaierai de ne pas être aussi longue que... Voyons voir. Je renvoie la blague. Voilà. Voilà, j'essaierai d'être courte, je vais essayer, mais de vous partager aussi mon cœur par rapport à ça et ce que dit la parole de Dieu. C'est surtout ça le plus important. Avant d'aller plus loin, je vais poser le cadre... Un peu comme ça. Ça va. Avant d'aller plus loin, je veux poser le cadre de ce partage avec deux versets de la parole de Dieu des psaumes. Le premier, c'est le psaume 127 qui dit « Si l'Éternel ne bâtit la maison, ceux qui la bâtissent travaillent en vain, pour rien. » Et le second texte, qui est aussi dans les psaumes, le psaume 124, verset 1, nous dit qu'il ne dort ni ne sommeille celui qui garde Israël. Et c'est avec ces deux versets pour cadre un peu que je vais aller dans ce partage. En fait, ce partage, je ne vous dis pas encore le titre, il est venu d'une réflexion d'il y a quelques années. Bon, ça ne fait pas quelques années que je prépare le partage quand même, mais voilà. Il est venu il y a quelques années, dans mon travail, je réfléchissais et je me disais, je commence bien chaque année scolaire et puis je voyais le temps qui passait et je me disais toujours, j'espère que je vais bien finir, que je vais bien arriver jusqu'au bout. Et ça devenait, c'était quand même une préoccupation, pas juste pour bien finir, ce n'est pas ça mon but, bien finir et après c'est bon, mais le but c'était que je puisse rester du début jusqu'à la fin, une bénédiction pour ceux qui m'entourent. Que quand je regarde cette année qui est passée, je puisse avoir un bon goût, comme quelque chose de bon qu'on a mangé et qui nous laisse un bon goût. Et que je n'ai pas quelque chose qui me reproche là dans le cœur, parce que voilà, j'aurais fait quelque chose qui entacherait. Alors, je vous rassure, je fais plein de choses pour lesquelles je dois me remettre droite aussi. Mais ça, c'était vraiment une préoccupation de rester jusqu'au bout une bénédiction dans mon travail pour ceux qui m'entourent, quels qu'ils soient, quoi qu'ils fassent. Et c'est de cette réflexion que je vais partager des paroles que l'apôtre Paul nous a données dans Galates. Parce que je crois que tout le monde, je pense... Tout le monde, c'est quand on commence à être un peu fatigué, fatigué déjà peut-être parce qu'on manque de sommeil, les gens nous titillent un petit peu, ils vont nous chercher sur des sujets qui nous fatiguent, il y a des gens qui répètent toujours la même chose alors qu'on leur a répondu, enfin, tout ce genre de détails, si on est fatigué, qu'est-ce qui se passe? Enfin, pour moi du moins, peut-être pas pour vous. Mais on a cette tendance à réagir, et puis après, il faut récupérer la chose, il faut régler la chose. Voilà, donc c'est pour tous ces détails-là que je voudrais vous partager. J'ai été interpellée, en fait, en lisant le livre des Galates, dans le chapitre 3, au verset 3, il y a cette interpellation de Paul pour chacun d'entre nous ce matin. Paul nous dit, ou dit aux Galates, pardon, êtes-vous tellement dépourvu de sens, après avoir commencé par l'esprit, voulez-vous finir maintenant par la chair ? Dans d'autres versions, dans la seconde 21, on trouvera « Voulez-vous maintenant finir par vos propres forces ?» Le cœur de ce chapitre, c'est de rappeler la justification par la foi. C'est ce qu'il rappelait aux Galates. Et les Galates sont encouragés à ne pas dévier de l'enseignement qu'ils ont reçu et à continuer de marcher par l'Esprit. Et puis plus loin dans ce livre, Paul dit, toujours aux Galates, il leur dit, mais vous couriez. Mais qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ? Donc cette notion de, après avoir commencé par l'Esprit, est-ce que vous allez finir par la chair ou par vos propres forces ? Mais vous couriez. Mais qui vous a arrêté en vous empêchant d'obéir à la vérité ? Donc c'est le sujet de mon partage ce matin, qu'on puisse voir un petit peu différents points qui peuvent nous concerner, peut-être il n'y en aura qu'un, peut-être deux. Et là, le premier point que j'aimerais partager avec vous, c'est peut-être que dans cette course, nous ne savons plus pour qui nous courons. Nous ne savons peut-être plus pour qui nous nous sommes engagés et peut-être même nous pensons, est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Et ça me faisait penser quand on fait une randonnée, j'avais deux exemples en mémoire de randonnées que j'ai trouvées très, très ardues, en tout cas pour moi, c'est le pont de Randa et puis le creux du vent. Et je me souviens pour ce pont de Randa, quand j'ai commencé tout en bas pour aller grimper jusque là-haut, d'abord ça grimpait toujours et encore. Et puis je me suis demandé à un moment donné, parce que j'avais regardé des images, ça me donnait envie. Puis je me suis dit, mais est-ce que je vais trouver ce que j'ai vu ? Est-ce que c'est bien ça ? Est-ce que ça vaut vraiment le coup de tous ces efforts ? On n'entendait que moi respirer dans la vallée. Tellement, le médecin avait dit que j'avais un cœur de sportif, mais j'ai du mal à le croire, j'ai toujours du mal à le croire. Mais voilà, je ne voyais plus, mais je me suis dit, bon, quand même, à mon rythme, loin derrière mon mari, c'est pas grave. Prenant des photos de temps en temps pour faire croire que je récupérais. Mais c'est vrai quand même, je prends beaucoup de photos. Mais ça valait le coup, une fois arrivé. Le creux du vent, c'est pareil, j'étais en bas, je vois ce cirque de pierres et puis je me dis, est-ce vraiment là qu'il faut aller ? Et comment ? Comment est-ce que je vais faire pour aller là ? Donc il y avait un chemin de tout en bas. Et puis à un moment donné, dans ce chemin boisé, ben, j'ai perdu le fil. Je ne voyais plus où on allait. Je ne voyais plus ce beau cirque de pierre que j'avais vu d'en bas. Et puis c'était long. Qu'est-ce que c'était long et dur et pénible. Et c'est un peu cette marche hein, dont tu nous as parlé. Il faut du courage. Il faut de la détermination. On a envie de baisser les bras, mais il faut continuer quand même. Et ça m'a fait penser à cette marche. Je me suis dit, mais alors... Peut-être que des fois, et peut-être que vous êtes dans ce cas-là ce matin, vous ne savez plus pour qui vous courez, pour qui vous vous êtes engagé. Et puis, peut-être ces pensées, mais est-ce que ça vaut vraiment le coup ? Dieu a-t-il réellement dit ? Est-ce que vraiment ça vaut le coup de s'engager pour Dieu, de marcher avec lui et de continuer ? Même si on a ces exemples comme Paul qui nous dit « Mais j'ai combattu dans 2 Timothée », il dit « Mais j'ai combattu le bon combat et j'ai gardé la foi ». Ça donne envie parce que le chemin a été rude. Quand on parcourt les épîtres et qu'on le suit un peu dans ses voyages, on voit combien ça a été difficile, combien il a dû se tenir pour le Seigneur et garder le cap. Ça donne envie. Mais si nous sommes dans ce cas-là ce matin où nous ne savons plus pour qui nous nous sommes engagés et si ça vaut vraiment le coup. Alors, je nous encourage et je prie pour ça qu'on puisse rencontrer le Seigneur à nouveau, d'une façon nouvelle. Les rencontres qu'on peut avoir avec Dieu, elles remettent les choses à leur place. Elles redonnent du sens à notre vie. J'aime à penser à cette rencontre de Saul, sur le chemin de Damas, ça a changé complètement sa vie et il a eu besoin de cette rencontre pour garder le cap. Ça m'a fait penser à Georges Müller aussi, qui, avant de se donner à Dieu, avait une vie tellement dissolue, même s'il se formait pour être pasteur, mais voilà. Et puis quand il a rencontré son Seigneur, sa vie a pris du sens. Et régulièrement, il y avait ces rencontres avec le Seigneur qui lui permettaient de garder le cap. Donc, voilà, si nous sommes dans ce cas-là ce matin, ben, qu'on puisse chercher Dieu et le rencontrer à nouveau. On pourra prier pour ça à la fin. Alors, qu'est-ce qui, sur notre route, qu'est-ce qui peut nous empêcher, qu'est-ce qui a pu ou qui peut encore nous empêcher de continuer à marcher vers le but, à marcher par l'esprit? Quelles sont les choses dont j'aimerais voir quelques points avec vous? Je vous trouve très attentif. Je n'ai pas l'habitude d'avoir un auditoire si calme. Alors, c'est un peu troublant, j'avoue. Mais je vais m'y faire. Oui. C'est plutôt un auditoire d'habitude. Je dis, vous pouvez rester tranquille. Donc, à vous, ce n'est pas ça. Hein? Alors, le premier point que j'aimerais aborder avec vous, c'est dans ce qui peut nous empêcher de continuer et à marcher par l'esprit et de bien finir. Ben, comme les Galates, peut-être on a laissé des enseignements venir mettre la confusion dans notre pensée. On s'est laissé happer par ce qu'on a entendu, et puis là, on ne sait plus trop où on en est, dans ce qu'on croit, dans ce qu'on ne croit pas, dans ce qui est juste, dans ce qui ne l'est pas. Et Paul nous rappelle, dans Romains chapitre 12, verset 2, il nous rappelle de ne pas nous conformer au siècle présent, mais d'être transformé par le renouvellement de notre intelligence pour savoir, pour pouvoir connaître la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alors si c'est le cas et si c'est assez confus dans nos pensées, dans nos cœurs, alors qu'on puisse revenir vers le Seigneur et se remettre, c'est un peu l'image que j'ai parfois de ma propre vie, je viens me remettre sous l'influence du Seigneur. C'est Alfred Kuhn dans la traduction Parole vivante dans Éphésiens chapitre 1 verset 8 qui traduit les choses comme ça. Il dit, mais sous son influence, sous l'influence de Dieu, se sont épanouies en nous de nouvelles facultés d'intelligence et de compréhension. Sous l'influence de Dieu. Alors je nous encourage, s'il y a de la confusion dans notre pensée, si les choses ne sont pas aussi claires par rapport à notre relation avec le Seigneur, par rapport à des enseignements, de revenir nous mettre sous l'influence de Dieu, ou d'y rester, et d'y rester. Donc ça c'est le premier point. Et le deuxième point dont je voulais parler, mais Benjamin en a tellement parlé la semaine dernière, le vendredi soir, dont j'avais préparé ça, mais ce n'est pas la peine que je le développe, c'est le thème du pardon. Avons-nous dans notre vie des situations qu'on a laissées comme ça, en plan, et qu'on a besoin de régler, qu'on a besoin de remettre droit? Est-ce qu'on a dans nos propres vies des personnes à qui on doit pardonner ou à qui on doit demander pardon? Est-ce qu'il y a des chantiers comme ça dans notre vie? Alors je nous encourage, j'aime beaucoup Matthieu 6, 12, cette prière qui dit « Mais pardonne-nous nos offenses comme nous les pardonnons. » Dans la version anglaise que je lisais, il y a le temps qui est utilisé. Ça fait « Comme nous avons pardonné, nous pardonnons aujourd'hui. » Et ça continue. Donc ça continue, ce n'est pas juste ce qu'on a fait, mais aujourd'hui. Aujourd'hui, y a-t-il des chantiers dans notre vie comme ça? Et le Seigneur est très fort très fort pour nous rappeler voilà, des moments ou des choses qu'il aimerait qu'on puisse remettre droit. Est-ce qu'on peut ouvrir notre cœur vraiment à ce qu'il a à nous dire, comme on partageait ce matin? Je pense que Dieu veut parler encore à chacun de nos cœurs. Alors qu'on puisse continuer d'être attentif à cette voix du Père qui veut nous parler. Et Paul dit, par rapport à ce pardon, il dit, mais ne laissons pas l'avantage au diable. On a cette parole dans 2 Corinthiens, chapitre 2, verset 11. C'était justement une situation où il parle du pardon. Il dit, mais ne laissons pas l'avantage à Satan dans nos vies, parce que nous n'ignorons pas ses desseins, parce qu'on le connaît. Qu'est-ce qui se passe si on lui laisse des chantiers où il peut se mouvoir librement, où il peut venir? Et puis là, il a le droit d'entrer. Ce sont des situations qui lui donnent le droit d'entrer. Donc Paul nous encourage, et je crois qu'il sait ce qu'il dit, à fermer ses portes, à régler, à avancer dans les chantiers qui sont ouverts pour ne pas laisser accès au diable. Parce que nous savons très bien quels sont ses desseins. Et ses desseins, ce n'est pas de nous encourager à continuer de marcher par l'esprit. Loin de là. Peut-être qu'il ne veut pas juste nous arrêter, mais il veut juste nous dévier. Ou nous faire croire que ce sont ses desseins. Donc on puisse... Dans ces choses qui peuvent nous arrêter dans notre marche ou nous commencer à nous faire marcher par la chair, qu'on puisse s'arrêter et dire, Seigneur, mais est-ce que c'est ça que je veux? Ou est-ce que je veux vraiment continuer de marcher par l'esprit, continuer d'apprendre à marcher par l'esprit jusqu'au bout? Pas pour moi simplement, mais pour continuer d'être une bénédiction pour tous ceux qui nous entourent. Pour continuer de répandre l'évangile. L'évangile aura du sens si notre vie a de la cohérence. Une troisième chose qui peut nous arrêter ou nous faire dévier ou nous faire commencer à marcher aussi par la chair, c'est simplement les choix que nous faisons. J'aime beaucoup l'épître de Jude. Jude commence très court, concentré. Mais il commence en disant, je voulais vous écrire une lettre au sujet du salut qui nous est commun, mais j'ai été contraint d'écrire. Alors il écrit, et puis moi quand je lis, je me dis, mais finalement, quand il écrit, il encourage à faire des bons choix par rapport à ce qu'on a entendu, à continuer de faire des bons choix, à ne pas se laisser perturber par ce qu'on entend, et ceci, et les théories des uns et des autres. Mais qu'est-ce que tu dis, toi, Seigneur? Quelle est la vérité? Donc j'aime beaucoup cette petite courte épître, je vous encourage à la relire. Et puis, dans les deux exemples que j'ai choisis dans la parole de Dieu, c'est l'exemple de Joas, dans 2 Chroniques 24, ce petit bébé de la famille royale qui a été sauvée par la sœur du roi. Et cet enfant va grandir auprès du sacrificateur, Yehoyada. Et puis il grandit bien, on lui donne de bonnes choses, un bon enseignement, il voit de bons exemples. Voilà, puis à un moment donné, le sacrificateur décède et puis il se retrouve là avec tout ce qu'il a appris, tout ce qu'on lui a enseigné, tout ce qu'il a aussi certainement pratiqué. Et puis, continuons de lire l'histoire, il ne va pas faire des choix selon le cœur de Dieu. Des choix plutôt qui vont l'éloigner du cœur de Dieu. Et qui vont partir dans une toute autre direction. Et puis il y a Lot, ça c'est un exemple qui est cher à mon cœur, mais je ne voudrais pas trop simplifier non plus, résumer la vie de Lot comme ça. Mais quand Lot est devant ce pays magnifique, il doit choisir Et Abraham, en grand seigneur, lui donne le choix. Il dit, tu peux choisir en premier. Alors il est là devant ce beau pays, cette vallée magnifique. Et voilà, il choisit ce qui lui semble le meilleur pour son troupeau, ce qui semble beau, ce qui, en apparence, pourrait paraître comme être le meilleur endroit où aller. Et ça me permet de souligner ce matin que parfois les choix qu'on peut faire et qui nous éloignent ou qui nous ralentissent dans cette marche ou qui nous font commencer à marcher par la chair, c'est parce qu'on se fie à l'apparence. Vous connaissez cette expression « l'habit ne fait pas le moine » ? Il y a l'histoire des Gabaonites aussi dans Josué chapitre 9, qui est bonne à relire, juste un peu pour revoir tout ça. Mais je nous encouragerai à rechercher le conseil de Dieu. Et j'ai réalisé humblement, parce que des fois je me dis, tiens ça, c'est Dieu qui me dit, tiens ça. Et puis je réalise que je dois continuer de chercher ce que Dieu dit vraiment. Et que même si je le cherche, je dois le chercher encore. Et que je dois faire très attention quand je dis, mais oui, le Seigneur m'a dit que, ou le Seigneur dit que. En tout cas, je réalisais pour ma propre vie qu'il fallait que je fasse très attention quand je disais ça. Et ça nous ramène à ce besoin de chercher, on a besoin du Seigneur. Nous avons besoin du Seigneur, pas juste pour trouver une place de parking quand on va faire, je ne sais pas, les courses ou je ne sais pas qui disait ça une fois, mais c'est vrai que ça m'a fait tilt. J'ai dit oui, oui, oui. Est-ce que je te résume à ça, Seigneur ? Non, je sais bien que non. Mais c'est juste à nous faire réfléchir un petit peu à là où on met le Seigneur, qu'est-ce qu'on croit vraiment qu'il peut faire ? Qu'est-ce qu'on croit vraiment qu'il peut faire ? Je partage avec vous une expérience que j'ai vécue sur les mois derniers, qui est encourageante pour nous aussi, dans le sens que ça vaut le coup de continuer de partager l'Évangile et que des gens nous regardent aussi. J'ai eu la joie de pouvoir marcher à côté d'un jeune homme qui a cheminé avec Dieu, qui me posait sans cesse des questions. Je le prenais tout le matin en voiture pour aller à l'école. Et puis, et dans mon fort intérieur, chaque fois qu'il rentrait dans ma voiture, je disais, Seigneur, prends-le dans tes bras. Allez, serre-le, donne-lui encore une dose de plus de ton amour aujourd'hui. Et puis, il me disait, mais j'aimerais recevoir l'amour de Dieu. Alors moi, je ne bougeais pas au volant, mais dans mon cœur, je disais, oui, oui, Seigneur, vas-y, vas-y. Et puis, tout un tas d'autres questions, il me dit, mais vous faites comment pour pardonner? Oh, je dis, Seigneur, je ne vais pas me priver de lui dire ce que tu m'as à partager avec moi. Après, il me dit, mais Dieu, il parle de ça. Oh, oui, oui, il parle de ça. Et puis, je continue à lui partager pendant des semaines et des semaines. Et j'ai dit, Seigneur, quelle joie de pouvoir marcher à côté de quelqu'un qui est en train de se donner à toi. Y a-t-il une plus grande joie que celle-là? Et ça, c'est le but de continuer à marcher par l'Esprit, de pouvoir partager cet évangile, cette vie qui est en nous, et de pouvoir continuer de la donner et qu'elle ait du sens. Qu'elle ait du sens par rapport à nos vies. Plus que faire des bons choix aussi, je voudrais partager avec vous quelque chose sur lequel le Seigneur nous a repris il y a quelques années. Je ne sais pas si le mot repris est très juste, mon mari et moi, mais alors qu'on finissait une période où on avait la tête à l'envers, vous savez ce que ça donne ? Et là, le Seigneur nous a dit très clairement ce qu'il voulait de nous. Il nous a dit, mais je veux que vous cherchiez à me plaire d'abord, plutôt qu'aux hommes. Et ça avait tout son sens dans ce qu'on venait de vivre et qu'on a continué de vivre après. Et c'est quelque chose comme une exigence de Dieu, dans le bon sens, mais d'abord, d'abord chercher à me plaire, chercher à savoir quelle est ma volonté. Et j'aimerais partager ça avec vous parce que je crois que c'est ce que Dieu nous demande. Et Paul, au début des Galates, dans le chapitre 1, il dit, mais est-ce que je cherche à plaire aux hommes ou est-ce que je cherche à plaire à Dieu? Il dit, mais si je cherche à plaire aux hommes, alors je ne suis pas un serviteur de Dieu. Je résume un peu. Donc c'est un encouragement aussi dans cette marche par l'esprit pour continuer d'avoir de la cohérence, frères et sœurs, que d'abord. Et quand je dis ça, je pense à nos situations de vie. Ça veut dire aussi ne pas être dans le compromis. Ça veut dire rester droit. Ça veut dire chercher vraiment ce que Dieu veut. Et j'ai un bon exemple pour ça avec mes parents. Mais j'ai vite compris, tout enfant que j'étais, que ça n'allait pas être facile du tout. Quand je voyais ce qu'ils vivaient, quand je voyais leur radicalité pour le Seigneur et d'abord plaire au Seigneur, je me disais, ouh, c'est ça que je veux, mais je sens que ça ne va pas être facile. Hein. Mais je me suis engagée sur cette voie. Et c'est vrai. C'est vrai que ça n'a pas été facile. Hein. C'est vrai que je me suis sentie, je n'étais pas juste sentie, mais j'ai été exclue, mis à part hein, de tout un tas de relations, de choses qui étaient faites, parce que, ben, voilà, je voulais plaire au Seigneur. Je disais, Seigneur, tu dis ça dans ta parole, mais je ne le vois pas. Avec mon petit 10, 11, 12 ans, je dis, mais je ne le vois pas. J'ai dit, qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Donc, c'était très difficile. Mais je voudrais vous dire, frères et sœurs, que de chercher à plaire à Dieu, c'est le prix de la liberté. Et c'est aussi le sujet de ce livre des Galates. La liberté. C'est être libre, vivre cette liberté en Dieu. Parce que nous savons qui nous suivons, nous savons qui nous cherchons, à qui nous voulons plaire d'abord. Voilà, c'est un encouragement. Ne vous sentez pas... Depuis de temps en temps, j'ai bien aimé ce que Benjamin disait. Vous pouvez dire amen si vous êtes d'accord. Enfin, voilà. Si vous ne l'êtes pas, vous pouvez venir me voir à la fin. Voilà. Donc voilà, ça c'est un encouragement en tout cas de pouvoir chercher à plaire à Dieu plutôt qu'aux hommes dans toutes les situations de nos vies. Pas juste dans le travail, pas juste dans l'église, mais aussi dans notre famille. Là où on vit avec les gens tous les jours, ils sont parfois pénibles. Hein. Là où on vit avec eux tous les jours et on est dans cette relation, mais de chercher aussi à plaire au Seigneur d'abord. Qu'est-ce que tu veux, Seigneur? Qu'est-ce que tu me demandes? Et des fois, je me suis dit que de chercher à plaire à Dieu, c'est un peu comme quand on est sur un fil, qu'on marche, écoutez-moi jusqu'au bout, et puis c'est pas très confortable. En plus, il faut aller jusque là-bas, donc c'est quand même un chemin qui est long, et puis on n'a pas l'équilibre, on est toujours... Et puis je me suis dit, tiens, mais moi j'ai pensé ça, que de chercher Dieu, de plaire à Dieu, ça me mettait dans cette situation qui est très inconfortable, je suppose, je ne l'ai jamais essayé, je ne voudrais pas, j'ai d'autres choses que je veux essayer, mais pas ça. Et puis finalement, je me suis dit, mais non, ce n'est pas ça. Chercher à plaire à Dieu, c'est me tenir dans le creux de ses bras, en sécurité, d'où je ne peux pas tomber. Je peux en sortir si je choisis, mais je ne peux pas en tomber. Ça a changé là-dedans, et dans mon cœur, la perspective. Je me suis dit, attends, c'est ce qu'il y a de meilleur. Donc je voudrais nous le partager comme étant quelque chose d'excellent, quelque chose de bon à chercher à vivre. Et c'est aussi... Je voulais m'adresser à vous, jeunes gens, parce que c'est quelque chose que Dieu nous demande à n'importe quel âge, de pouvoir le chercher en premier, de pouvoir être fier de lui et de pouvoir aussi répondre à ce qu'il nous demande avec courage. Donc, j'aimerais nous encourager et vous encourager à marcher droit avec lui et à chercher à lui plaire à lui d'abord. Et je sais que c'est difficile. Par les temps dans lesquels nous sommes, dans les influences qui sont là, dans les choses qui sont dites, c'est dur. Mais Jésus a payé vraiment le prix pour qu'on puisse se tenir droit devant lui. Et c'est en toute humilité et dans mes faiblesses, mais j'aimerais vous encourager ce matin de n'avoir jamais honte de lui et pouvoir vous tenir en toutes circonstances ou vous retirer de situations si vous devez vous retirer. Et je crois que vous avez aussi toute la fierté du Seigneur, là, quand il vous regarde, en tout cas. Soyez encouragés. Donc, j'ai juste partagé avec vous des choses qui pourraient, ou des situations de nos vies qui pourraient nous empêcher de continuer à marcher pour l'Esprit. C'est quelque chose qui était cher au cœur de Paul. Il dit dans cet épître aux Galates, mais allez-y Galates, marchez par l'Esprit. Et moi j'aimerais nous dire, allons-y, Église de Bussigny, mais marchons par l'Esprit, continuons, levons-nous et marchons par l'Esprit, continuons. Et je terminerai par ce point, mais alors, enfin, c'est avant-dernier point, pardon, de comment continuer de courir par l'Esprit. Et je vais juste vous donner un verset pour chaque phrase, si vous avez le temps après à la maison de regarder. Et ça fait un peu comme un résumé. Donc, je nous encouragerai à rester sous l'influence de Dieu, sous la sienne. Et personne d'autre, mais sous la sienne, sous ton influence, Seigneur. Et je laisserai Éphésiens chapitre 1, verset 8. Je nous encouragerai à continuer d'être transformés par le renouvellement de notre intelligence pour qu'on puisse discerner quelle est la volonté de Dieu dans Romains 12, chapitre 2. Je nous encouragerai aussi à être remplis du Saint-Esprit. J'ai jamais pensé de moi que j'étais quelqu'un de courageux en soi, mais j'ai découvert avec le Saint-Esprit, des fois quand je regarde, je ne sais pas, vous faites ça, vous ? On s'assoit, puis surtout le soir quand je me couche et que les minutes commencent à être longues, alors je commence à penser à ce que Dieu a fait, et puis je commence à penser à des situations, et puis je me dis, ah non, mais je ne savais pas que je pouvais être courageuse comme ça, où j'ai dû me lever devant des gens que... Après, quand j'y repense, je me dis, mais t'es folle. Mais peut-être de la bonne folie, j'espère. Mais cette présence du Saint-Esprit en nous nous amène à nous tenir aussi droit dans des situations et à oser faire des choses que, humainement parlant, on tenterait pas, on n'oserait pas. Ce cadeau du Saint-Esprit, c'est Paul qui nous rappelle dans Éphésiens chapitre 5. Il nous dit, j'aime bien, il a sa façon de dire, c'est pourquoi ne soyez pas sans intelligence, voilà. Mais comprenez quelle est la volonté du Seigneur. Ne vous enivrez pas de vin, donc c'est de la débauche, mais soyez remplis du Saint-Esprit. On peut penser, j'ai beaucoup aimé le partage, Christian lundi, et j'avais qu'une envie à la fin, se dire, allons, prions pour être de nouveau remplis du Saint-Esprit. Voilà, je crois que c'est ce que le Seigneur veut. Il y a comme des rendez-vous régulièrement, où je dis régulièrement, mais Seigneur, remplis-moi, mais vas-y. Et puis il y a des moments, disons que quand on a goûté à quelque chose, je pense que c'est physiquement parlant, c'est ça aussi, quand on a goûté à un bon plat, comme quand j'ai goûté à la mousse au citron de Sylvie, eh ben, je ne peux plus m'en passer. Voilà, donc je la fais régulièrement et je la fais goûter et ça me vaut des remarques sur mes desserts, mais tant pis, d'accord. Donc quand on goûte à quelque chose, on n'a qu'une envie, c'est d'y goûter encore, mais pas que ça. C'est de la faire goûter à d'autres, qui puissent, allez, viens, goûte, regarde, mais goûte ce que j'ai goûté, c'est tellement bon. Et puis à son tour, ce quelqu'un va dire, ah oui, à part si vous n'aimez pas le citron, on peut faire au chocolat aussi. Et puis, ah non, je vais faire goûter encore. Et puis régulièrement, dans ma vie, j'ai ces rendez-vous avec le Seigneur. Je dis, Seigneur, viens, remplis-moi. Alors, je sais bien que Paul, il dit, ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Mais c'est vrai que quand même, quand le Seigneur m'a rempli, je me souviens cette première fois, quand j'avais pas tout à fait 7 ans, on était dans ce grand centre de vacances, 120 enfants, dans cette réunion. Et on était tous là, on a dit, nous, on veut le Saint-Esprit. C'est un cadeau. C'est une promesse, il n'y a pas des qualifications à avoir, on n'a pas besoin d'être très intelligent, peu importe, c'est un cadeau que Dieu veut nous faire. Alors on était là, 120 jeunes, de moi la plus jeune à 18 ans, et puis on a dit, on veut le Saint-Esprit. Et ce jour-là, je peux vous assurer, je m'en rappelle encore, c'est pour ça que j'en veux toujours, parce que je me rappelle. Et puis, pas seulement ce que ça m'a fait, mais ce que je suis devenue après. De petite enfant chétive qui n'osait pas grand-chose, qui n'avait aucune confiance. Mais comment le Saint-Esprit en moi m'a amenée sur ce chemin de la vie et m'a donné cet équipement pour pouvoir la vivre et partager l'Évangile. Donc régulièrement, je dis, Seigneur, j'en veux encore. J'en veux encore. Et plus que la première fois, parce que là, le vase, il est un peu plus grand. Alors, j'en veux encore. Est-ce qu'on a cette soif ce matin d'en vouloir encore? Donc, c'était un des points. Donc, Seigneur, viens, remplis-nous de ton esprit. Et puis, habille-nous de ta sagesse. Pierre, il dit, dans 2 Pierre, il dit, mais que par sa divine puissance, il nous a tout donné. Ce qu'on a besoin pour vivre cette vie de foi. Alors, je ne sais pas vous, mais moi je vais être comme une enfant et dire, mais si tu le dis, ai-je besoin de compliquer les choses? Ou simplement, je le prends et je m'en revais, Seigneur, je le veux ça. Et c'est pour chacun d'entre nous ce matin. Par sa divine puissance, il nous donne tout ce dont on a besoin. Pour faire face à toutes les situations de notre vie. Et puis, attachons-nous, un encouragement à s'attacher aussi à la parole de Dieu, et pas juste à la garder là, mais à la pratiquer. Jacques nous le rappelle, voilà, il nous dit ce à quoi ressemble quelqu'un qui ne met pas en pratique la parole de Dieu. Je vous laisserai le relire dans Jacques chapitre 1. Et Paul nous encourage aussi dans les Galates, à tenir ferme. Ce n'est pas Dieu qui fait tout. Mais il nous dit, tenez ferme dans cette liberté qui vous a été donnée et ne vous soumettez pas, ne revenez pas sous le joug de l'esclavage. Tenez ferme. Si nous avons goûté à la liberté de Dieu, tenons ferme, pas par nos propres forces, mais en étant remplis du Saint-Esprit. Tenons ferme. Apprécions la grâce de Dieu, c'est un point qui est cher à mon cœur. Apprécions la grâce de Dieu, le aujourd'hui de Dieu. Je suis connue dans mon travail pour à chaque jour suffit sa peine et chaque chose en son temps et une chose après l'autre. J'entends souvent quand je suis dans la classe les élèves plus jeunes qui disent « Mais tu sais bien qu'elle fait une chose après l'autre, alors c'est pas la peine que tu l'appelles. » Et j'ai dit « C'est tout à fait ça, vous avez compris, mais c'est pas la peine de nous faire du souci pour... voilà, vivons ce aujourd'hui. Laissons la grâce du Seigneur nous éduquer, hein, nous former, nous éduquer, que ce soit sa grâce à lui qui le fasse. Alors je termine vraiment par ce texte de 1 Thessaloniciens 5. Je vais vous lire juste le passage. Et quand je l'ai lu, je me suis dit, mais Sabine, si tu es occupé à faire ce que je vais vous partager, alors tu n'auras plus d'autre temps pour faire de choses inutiles et pour dire des choses inutiles, vaines, et pour tourner en rond, tu n'auras plus de temps. Donc j'aimerais vous le partager dans cet état d'esprit-là. 1 Thessaloniciens, chapitre 5, versets 14 à 22. Nous vous prions aussi, frères et sœurs, jeunes gens, enfants, plus âgés, avertissez ceux qui vivent dans le désordre, consolez ceux qui sont abattus, supportez les faibles, usez de patience envers tous. Prenez garde que personne ne rende à autrui le mal pour le mal, mais poursuivez toujours le bien, soit entre vous, soit envers tous. Soyez toujours joyeux. Ça m'a fait du bien ce matin d'entendre quand tu as dit, quand on a prié ensemble à 9h30, donc un d'entre nous, des techniciens, a dit « Mais quand je suis rentrée, tu sentis la joie du Seigneur dans ce lieu. » Et je vais prier pour ça, parce que je voudrais plus. Je ne sais pas vous. Ah, ça fait du bien. Mais je vous rassure, vous n'êtes pas encore, cherche le bon mot. Vous pouvez y aller encore davantage dans vos réponses. Priez sans cesse, rendez grâce en toutes choses, car c'est à votre égard la volonté de Dieu en Jésus-Christ. Et ça s'adresse à toutes les générations. Ce n'est pas que pour les vieux comme moi, à toutes les générations. N'éteignez pas l'esprit. Ne méprisez pas les prophéties, mais examinez toutes choses, retenez ce qui est bon. Abstenez-vous de toute espèce de mal. Donc voilà, quand j'ai lu ce texte, je me suis dit, mais si je suis vraiment occupée à faire tout ça, entre guillemets, à servir le Seigneur comme ça, à me préoccuper de tout ça, aurais-je le temps de faire autre chose? Aurais-je le temps de penser à autre chose? Aurais-je le temps de dire des choses qui détruisent les gens? Aurais-je le temps de penser, même de me faire du souci pour demain? Aurais-je le temps de... Voilà, c'est juste une interpellation. En tout cas, c'est peut-être juste pour moi. Voilà. Je dis souvent au Seigneur, quand je lis la parole de Dieu, je dis, Seigneur, mais là, tu parles à tout le monde. Mais je dis, moi, j'aimerais que tu me parles à moi. J'aimerais que tu me parles à moi, personnellement. Qu'est-ce que tu me dis à moi? Qu'est-ce que le Seigneur dit à chacun d'entre nous ce matin? Qu'est-ce que Dieu dit à l'Église aussi? Voilà, si vous êtes d'accord, je voudrais qu'on puisse fermer les yeux. Et puis j'aimerais qu'on prie pour nous, et je me mets dedans, pour un renouvellement dans la joie du Seigneur. Et pour que chacun d'entre nous soit rempli du Saint-Esprit. Merci Jésus de ce que tu es là. Merci pour ce que tu as accompli. Mon cœur est dans la reconnaissance parce que je sais que si je suis là aujourd'hui, c'est toi Seigneur. Si nous sommes là aujourd'hui, c'est toi Seigneur Jésus. Même pour ceux qui ne te connaissent pas, au milieu de nous, sur le net, qui nous écoutent, s'ils sont là aujourd'hui, c'est toi, Jésus. C'est parce que tu as un rendez-vous. Tu as un rendez-vous. Tu l'as honoré, toi. Et je prie que nos amis qui ne te connaissent pas puissent se donner à toi aujourd'hui, puissent t'accepter comme leur sauveur, Jésus. Puissent prendre la main que tu leur tends et commencer cette marche par l'Esprit avec toi. Merci pour, Seigneur, tous ceux qui sont à toi aussi dans ce lieu, qui marchent fidèlement, qui n'ont pas perdu le fil, qui savent toujours pour qui ils courent. Et je prie pour un renouvellement, Seigneur, de cette joie dans nos cœurs. Et moi, j'aimerais te demander, Seigneur, plein de joie dans nos cœurs. La joie d'être à toi, la joie de t'aimer et de pouvoir te servir. En tout temps et en toutes circonstances. Viens, Saint-Esprit, renouvelle cette joie dans chacune de nos vies. Remplis-nous de toi, Saint-Esprit. Donne-nous de vouloir plus de toi. Touche-nous dans nos entrailles ce matin, au profond de nos cœurs. Touche-nous, Jésus. Et donne-nous, Seigneur, quand on rentre à la maison demain et chaque jour, de vouloir plus et de vouloir continuer à marcher par l'Esprit. Et je veux te prier pour mes amis qui sont dans des situations qui sont difficiles, des situations où ils doivent pardonner. Et c'est dur. Mais je sais, Seigneur Jésus, que dans les moments où je t'ai dit, mais où tu étais quand ça s'est passé, tu m'as donné cette révélation que tu étais là et que tu n'as pas permis que je reste au sol, mais tu m'as tendu la main pour que je me relève et que je continue à marcher avec toi. Alors je prie pour chacun de ces amis qui a besoin, Seigneur, de fermer des portes, de ne plus laisser le diable agir et venir réclamer le terrain qu'il pense être le sien. Je prie, Père, que chacun ait à cœur de faire ce que tu demandes, sachant que tu es là et que tu nous accompagnes. Et puis, pour tous ceux qui doutent, qui t'ont aimé, t'ont servi pendant tant d'années, qui sont peut-être aujourd'hui dans le doute ou l'incrédulité. Mais Seigneur, tu as aussi une parole pour eux. Tu as aussi une main tendue vers eux pour reprendre la marche. Alors viens, Jésus, par ton esprit, lave, Seigneur, toutes ces pensées qui les a occupées, tous ces doutes, viens. Viens, Saint-Esprit. Et redonne, Seigneur, le but, l'objectif, redonne. Redonne du courage. Et pour tous ces jeunes gens qui sont là au milieu de nous ce matin ou qui nous écoutent, Seigneur Jésus, merci. Merci pour les plans et les projets que tu as pour eux. Je veux te prier que dans leur cœur, l'amour pour toi et pour ta parole soit quelque chose qui brûle toujours et qui brûle de plus en plus. Que te plaire soit leur préoccupation. Chercher conseil auprès de toi soit leur préoccupation. Se lever pour toi soit leur préoccupation. Merci Jésus. Merci Saint-Esprit. Je te donne, Seigneur, la gloire et l'honneur pour qui tu es, tout ce que tu fais et tout ce que tu feras encore. Et je m'attends, Seigneur, à voir ce renouvellement dans la joie et dans le Saint-Esprit. Merci, Jésus. Amen.